Kunstradio. Radio Kunst. Guten Abend, wünscht Anna Socek. Im Kunstradio leiten wir heute einen Sommerschwerpunkt zu kanadischer Radiokunst ein. Heute und in den folgenden zwei Sendungen präsentieren wir eine Trilogie von Jocelyn Robert und Laetitia Sonami. Und im August wird der Schwerpunkt unter anderem mit einer Überblickssendung über aktuelle Radiokunst sowie mit einer neuen Produktion der kanadischen Radiokünstlerin Anna Friss fortgesetzt.
Radio. Kunstradio.at.
Jocelyn Robert hat Pharmazie studiert und als Architekt gearbeitet, bevor er sich der akustischen Kunst zugewandt hat. Er lebt in Quebec und ist Gründer und Betreiber des Medienkunstzentrums Avatar eben dort. Seine Arbeiten wurden unter anderem mit dem Transmediale Preis ausgezeichnet, erschienen sind sie auf zahlreichen CDs. Aus der CD Folie Culture von 1991 wollen wir nun einen längeren Ausschnitt spielen. Wundern Sie sich nicht, das Stück ist stellenweise sehr leise oder sogar still und darum geht es auch. Robert empfiehlt, beim Hören die Lautstärke nicht raufzudrehen, sondern das Fenster aufzumachen, damit sich die Geräusche Ihrer spezifischen Hörumgebung mit den Geräuschen, die aus dem Radio kommen, vermischen. Folie Culture, Partie 4 von Jocelyn Robert. Das war ein längerer Ausschnitt aus Folie Culture des kanadischen Radiokünstlers Jocelyn Robert. Gemeinsam mit der in Los Angeles lebenden Performerin, Komponistin und Instrumentenbauerin Letizia Tsunami hat Robert im Jahr 1999 eine Zusammenarbeit begonnen, die nun mit dem Abschluss der Trilogie ein Ende gefunden hat. Die ersten beiden Hörstücke, die wir Ihnen heute und nächste Woche vorstellen, sind bereits auf CD publiziert worden. Das dritte haben Robert und Tsunami unlängst in Wien aufgenommen und stellen es derzeit fürs Kunstradio fertig. In der Trilogie geht es um Silhouetten, also um das, was außerhalb einer Kontur liegt, was ausgespart ist. Hören Sie eine Erläuterung von Jocelyn Robert. Die deutsche Übersetzung finden Sie auf kunstradio.at.
In drawing, if we go back to the visual arts domain, in drawing you could draw your hand, for instance, which is a common exercise in drawing school. But then you could also draw all the rest of the room and not draw your hand, and your hand would still be there somehow. You know, it's everything but the hand. So that's the general approach we had when we started. Like, what would be everything but a movie? What's around the movie? Not a soundtrack for a movie, but what's around it? What defines its exterior? So that's the first project we did, which ended up being called Le Crash Coffage. And then the second time we said, well, we did it around a movie, but a movie has a time base. So it's kind of easy, you know, you just follow the lines. But how would we do that from a text, which is a completely different time object? So we did it around the text for the second one, which ended up being Les Scaphandres. And very, very early in the process, we thought it should be three things. First a movie, then a text, and then a city. Or a place, let's say. And we were waiting for the last part to happen. We were waiting for an occasion to do it, an opportunity. And then came this project in Vienna.
Jocelyn Robert über die Idee der Silhouette, die für die drei gemeinsam mit Letizia Tsunami erarbeiteten Hörstücke die inhaltliche Klammer bildet. Ausgehend von einem Film, von Texten und von einem Ort, nämlich Wien, stellen Robert und Tsunami das Abwesende bzw. das Mögliche akustisch dar.
In a way, for me, there was somehow the same tension with the film as with this place that we have now, but in a different way, was this idea again of like, are you illustrating? Are you documenting? Are you responding? Or are you just like free association, you know, the range of the glue, you know, how are you glued to the material? And
how much sauce? This is the chicken aspect. That's what we referred to over the week as the chicken aspect of things. When you cook things, you know, you cook a chicken, this is a chicken. People are expecting it to taste like chicken. You know, it's not supposed to taste like, I don't know, jam or something. It's a chicken. If you do pastry, you're free. You can make up whatever you want. And there's a range of representation there, you know. Of course, you could put some sauce on the chicken and it tastes a bit different and you bring it somewhere else, but it's still chicken. When you're doing field recording, somehow you're recording reality and there's this tendency to say, well, you know, this is kind of a pole on the end of one line. And at the other end, you have this completely electronic sound that you can build. And there are ranges there and there are strange positions in there.
Sie hören Auszüge aus einem Interview, das im Mai in Wien geführt wurde. Da haben wir die beiden Künstler Letizia Tsunami und Jocelyn Robert auch gefragt, wie sich ihre gemeinsame Arbeit zum Raum des Radios verhält.
We kept moving from, that's hard to describe, but different depth of spaces. So sometimes you're really close to the object. And sometimes the object is there. It's a bit, you know, in the distance. And sometimes we have places where what you hear is actually the cardboard of the loudspeaker. So it's in your room. You're out of this. You know, there are all these different levels of spaces. Sometimes someone is talking to you. So that's not, and the voice sometimes is in a space. So you can imagine, oh, this is a represented space. And sometimes the voice is speaking directly to you. So the voice is almost in your living room or in your headphones. And then sometimes it's the object itself that's making the sound. So that's how the radio space, I think, exists. You know, it's like all these depth of spaces that we use, and then it's channeled through radio, and it expands again. And you have all these other possibilities to how do I inscribe myself in this sound space?
I think that also added to what you're saying, even though it did not come at the beginning when we thought of the radio space and how the radio space related to presence and place. But I think that before coming here, we discussed some kind of the idea of how we would approach the idea of space. And somehow the idea of the container or the idea of the empty space or the space where anything can happen became some kind of a relevant. Like we were at some point discussing, what if we just represented the circumference or the outside or what is not, again, what is not the space? So instead of, for instance, if it's a city, instead of doing the city, why don't we just try to find what the borders of the city are sonically or some kind of, or conceptually? But then it's interesting because then if you think of this idea of a space where things can happen, then it's very close to radio. It's a space, a potential space that comes alive or does not come alive, but it exists as a potential space. So I think that a lot, I'm not sure what it means from a point of view of how it was realized, but somehow in I think in our minds, there's some kind of a similarity of this potential. And how do you occupy this potential? And then, you know, how do you inhabit it somehow? So I think they're very related.
And there's another thing that we discussed before, the idea that when you have this movie, it goes from A to B. When you're in a space, there's no way to do it. So the way you choose to relate to the space, you actually miss all the other ways, right? So, and we were caught with that. You know,
the
we could
commitment,
have,
you mean? The
yeah,
commitment.
You have to commit to one, and you know that all the other ways to relate to the space are lost now. And in the piece, we're caught with that. You know, sometimes we want to get this personal feeling in the piece, which means, well, the distant point of view, you're losing. And sometimes we go back to the distant point of view, but then the personal aspect is lost. And radio is like that. When you listen to this particular program, you can't rewind. It's not a CD. You can't rewind and say, oh yeah, I want to listen to that little part again. No, it's a commitment to this time now. And if you listen to that channel, you're losing all the other ones. So it's a commitment to one point of view in the space, which is very hard. You know, it hurts. It's hard for us too. Like, okay, we put that sound there, we're leaving all of these out. And they are all potential points of listening. You have to commit to one.
Und inwiefern ändert sich das jetzt mit der Verfügbarkeit von Webradio und Podcasts, wenn man Sendungen nachhören, wenn man vor- und zurückspulen kann? Hat das Radio noch eine Existenzberechtigung oder wird es vom Internet überholt?
No, I don't think, for two reasons. First, a radio podcast is a radio podcast. Radio is radio, a radio podcast is a radio podcast. So already you're having two words because you describe two realities. The second thing is, when you decide to rewind your radio podcast, you're actually leaving out all the other radio stations that are actually going on. There's no way you can listen to it all. And I think radio has that thing, that the presence idea. I'm here with this sound coming up.
Yeah, it still, I think, carries on. And then when you listen to the podcast, maybe it's the storytelling aspect still, you know, it still is very present because you see people, even though it's true that they can always go back to it, there's still a synchronicity that happens between the voice of the person telling you something or the sound and then the actual listening. Maybe that's part of hearing in general. But in the case of radio, it's definitely kind of exaggerated somehow. And I think the commitment idea that you say is really interesting. It still keeps a lot of that, you know, like that idea that, you know, you're driving and you're listening to something and you're going, oh, I might, you know, sometimes you have to stop the car to listen because you know it's going to be gone. Even though you know you could go back to the station and ask them what was it, but you're probably not going to do it. So I think that commitment to the now is still there, interestingly enough. Luckily, yeah.
Historically, that's the flavor that radio took on. You know, maybe...
What
you
flavor?
Could, well, that now aspect. Maybe there's a way you could get radio, get rid of it. You know, like maybe we could reinvent radio and it wouldn't be there. But I think it's still there from its history. So that's still how we listen to radio, how we conceive of radio.
Jocelyn Robert glaubt also an die Eigenständigkeit des Radios im Verhältnis zu Online-Medien. Ein audiovisuelles Medium, nämlich einen Film, haben Robert und Tsunami als Ausgangspunkt für ihr Stück Le Crash Coffage verwendet, das erste in der dreiteiligen Reihe zum Thema Silhouette. Im Arbeitsprozess an dem Stück haben sich zunächst beide getrennt mit dem Film beschäftigt, erzählen sie im Interview.
Well, I think the process is interesting in order to understand how it came out. For the Crash Coffage, what we said is we each on our own, we began the project. We picked the movie and said, okay, we're making the silhouette of this movie. So work on your own, I'll work on my own, and I'll try to do this silhouette thing. And so we brought ideas for that.
Well, and one of the silhouette was you were silhouetting the image and I was silhouetting the sound,
yeah,
or the other
right.
way around.
That's right. You could say you look at the picture and there's this guy waiting for something. It could be waiting for a bus or waiting for the sky to fall or whatever. He's waiting. So you'd feel like, oh, there should be a little sound there so that it fills this waiting place, you know, something like that. But then, of course, it's very open to interpretation. Are you filling in the negative aspect of it? You know, like, okay, there's a void, so it needs to be filled? Or there's a waiting part and we need a little bell in the distance so the time is kept. You can read it the way you want, but still you have the feeling of this part of the time of the movie that somehow is inscribed there, the picture and the sound. So we made sound of these two aspects.
There was a timeline, I mean, the silhouette, there was definitely this idea that there was a length that was followed, there was a score, not a score, but like there was a progression, you know, from the beginning to the end of the movie.
Yeah.
So whatever we would inscribe in our respective ways kind of followed somehow this kind of timeline.
Welcher Film als Ausgangspunkt hergenommen wurde, bleibt geheim.
I think it's
there are
kind
clues,
of clear.
You could guess, you could guess but there are clues.
Hören Sie nun also das Stück Le Crash Coffage von Jocelyn Robert und Laetitia Tsunami. Entstanden ist es im Jahr 2000 und die Länge ist 37 Minuten.
Quand la mécanique des molécules les plus intriquées s'insère dans les cases prévues à cet effet au cœur même des méandres du pouvoir, le sens des aiguilles d'une montre n'a plus rien à voir avec le soleil. Entre les tuiles luisantes et les velours tendus, la tranche de deux choses l'une. On passe bien sûr par les hauts cris. La convulsion est d'abord vocale, avant de mettre en mouvement le cubitus, la giroflée, l'ambidextre, l'hypothèse, jusqu'à secouer les grandes orgues lovées en circonvolutions inférieures et repasser l'énergie ainsi cumulée au mouvement contraire d'autres molécules. Plus simple, celle-là. Le levier, rien de secret. Et la martingale s'emballe, deux pas de plus, et c'est le vide. Avec fracas.
L'homme bégaye. Le tigre grogne. Le poisson frétille. L'abeille butine. Le moteur rugit. La poule pond. L'homme étouffe. L'oiseau chante.
Il y avait sans doute des gens assis. Et puis... ouais. Le ciel était... j'étais tellement petite que je peux pas... ça fait du bruit quand ça bouge. Je me rappelle du bruit. Ouais. Je devais avoir... ça devait être quand je pouvais marcher, regarder. Non. 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 Et les tentures jaunes. Et puis... parce qu'elle n'est pas si bête que ça. à chaque pas où elle va, où elle va. Elle voit où elle va, mais non pas qu'elle voit loin, mais quand elle voit, quand elle met son pas, elle voit où elle va aller. Ah. Thank you.
quelques éclats. L'eau coule et les bestiaux soufflent. On entend des narines et des camouflages. On sent le miel et la levure, le liège et le métal. La lune frappe les bordures variables de la céramique. Quelques éclats.
Entre les bandes plates et minces, une matière dure implantée sur l'extrémité dorsale de chacun des cinq prolongements qui termine la partie du corps humain. La partie du corps humain, l'organe du toucher, c'est situé à l'extrémité du cerveau, sur le cerveau, sur le cerveau, sur le cerveau. À l'espèce animale la plus évoluée de l'ensemble de tous les lieux, difficile à distinguer.
On a commencé à faire des scaphandres parce qu'on avait arrêté de fabriquer des armures. Nous sommes allés à la gare. Sous l'horloge en bois avec des anguilles en bois, l'air était jaune de partout. Les marches grises et rondes glissaient sous la semelle. Ça sentait l'église. Les pierres suintaient de plus en plus à mesure que l'escalier se transformait en tunnel, quelque chose comme le métro de Londres pendant la Deuxième Guerre, avec des couchettes suspendues un peu partout dans un grand corridor vert pâle, des boîtes pleines d'intitulés, de magazines fripés ou de fripes magasinées. Ça sentait aussi le vieux comme celui-là couché maigre. Sa couverture de laine rude était rouge rude, avec un peu de noir rude. Quelque chose qui laisse passer l'air et le froid et l'eau. Au fond, les murs. Ça sentait la corde et l'encens métallique de tuyaux surchauffés. Dans la cour, derrière les arbustes gris, un gros chat gris lacérait la base d'un arbre, pendant qu'autour du tronc voisin, un troupeau de pigeons tournait à la queue leu-leu, creusant dans la neige mouillée un ravage circulaire qui en disait long sur l'état des choses. Les trains ont toujours des dessous huileux. Les sons qui émanaient d'eux vibraient l'air jaune et bleu. Comment replier les doigts dans les gants? Sur la paume? Tous ensemble? Rien n'y fait. La glace devrait pourtant laisser place à une manière de printemps ou au moins à un réchauffement passager. Quelque chose dont on pourrait dire qu'il y a encore ou peut-être ou même au cas où, si jamais. Rien n'y fait. Les boîtes se font encore en carton, le pain en tranches, la tête en avant. La table en bois brun recèle quantité de micro-organismes, des petites quantités molles qui bougent en petites quantités. C'est beau les micro-organismes, ça grouille un peu, ça dort, ça flotte comme dans un verre ou dans l'eau d'un coin d'œil. Ça s'entoure de petites bulles et de petits grains de choses. Ça pullule. Ça rappelle les petites cochonneries que l'on voit quand on se regarde dans les yeux tournés vers le ciel le matin. Dans l'espace de corridor trop large, un éclairage violent, blanc violent. Une rangée de petites portes verticales, toutes identiques, étroites et numéros. Des dates ou des logements. L'odeur transversale du papier mouillé. Pourquoi les portes sont-elles toutes si obstinément, si catégoriquement verticales? On a commencé à apprivoiser les chevaux parce que pour les ânes, on s'y était pris trop tard. Quand le grand corps s'ébranla, le petit aussi. Je suis revenue en zigzagant entre les pavés. Dans les planches des planchers de bois brun sombre, il y a comme une sorte d'huile qui donne à l'aube une manière de cirage. D'aucuns diraient d'épiderme, ou de patine. Un téléphone en bakélite noir comme de raison, une plante verte couverte de poussière sans en avoir l'air, des ustensiles sales, des lettres en provenance d'ailleurs comme de raison, un gris peint en métal et un sac en plastique, des mottes de mouton ici et là, de cet amalgame de cheveux, de tissus et d'autres trucs innommables dans lesquels il faut bien, de temps à autre, échapper son pain. Le cri du téléphone est une arme. À deux tranchants. Retirer cette Excalibur des limbes qui se déroulaient autour des pattes de chaise était bien au-dessus des forces humaines en présence. Il fallut temporiser. D'abord, puis, dans cet ordre. Et là, il était trop tard. Mais bon. Dans les mouvements lents que décrivent les extrémités du corps dans son déplacement d'un lieu à un autre, il y a la clé d'un sommeil de la censure qui nous guette quand nous pensons assis. Toute une civilisation qui se soumet à l'excision des facultés mobiles de son nerf principal. Les vertus rédemptrices des organes téléphoniques sont encore à démontrer. Quand l'air résonne comme ça, sa couleur change, passe du jaune au vert, le bleu des yeux étant accordé à l'image sonore des millions de petites bêtes en cuivre qui courent le long des fils en rangées serrées, animées par le défilé des pales de turbines des barrages comme au lac. On a commencé à faire des scaphandres parce qu'on en avait assez des téléphones mouillés.
«
Das war Le Crash-Coffage von Jocelyn Robert und Laetitia Tsunami, eine Koproduktion des Kulturkanals des kanadischen Rundfunks und der von Jocelyn Robert mitinitiierten Künstlerplattform Avatar aus dem Jahr 2000. Das war der erste Teil einer Trilogie, die in einem Zeitraum von über 10 Jahren entstanden ist. Den zweiten Teil bringen wir nächste Woche im Kunstradio am Sonntag um 23.03 Uhr. Für heute verabschieden sich Anna Socik am Mikrofon, Elisabeth Zimmermann Redaktion und Katharina Ahammer Technik.